Décryptage, Marie Cazadebé.
Les Allemands vont voter dimanche des élections fédérales qui définiront la composition du Bundestag, mais aussi la coalition qui va diriger le pays pour les 4 années à venir. Cela fait déjà quelques semaines que les jeux semblent faits. Angela Merkel court vers un 4e mandat.
Je veux travailler avec mon expérience des dernières années et ma curiosité pour les défis de demain à préparer notre avenir pour vous, avec vous. Je vous demande de me faire confiance. Merci et bonne soirée.
Mais comment expliquer une telle longévité? Avec qui Angela Merkel va-t-elle gouverner cette fois? Sur quel thème s'est jouée cette campagne sans suspense? Notre invité va nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Et bonsoir Jérôme Vaillant.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes professeur émérite de civilisation allemande à l'université de Lille, rédacteur en chef de la revue Allemagne d'aujourd'hui. Alors si l'on part du principe qu'Angela Merkel va être reconduite à la tête de l'Allemagne, où se situe l'enjeu de ce scrutin?
Alors l'enjeu aujourd'hui, effectivement, c'est de savoir quel sera le troisième parti et quelle sera la coalition que la chancelière saura mettre en place en fonction des résultats. Et là, il y a quand même une bonne part d'inconnus. En fonction du score que fera la fameuse alternative pour l'Allemagne, plus ce score sera élevé et plus il sera invraisemblable que les chrétiens-démocrates puissent former ce qu'on appelle une petite coalition avec un autre petit parti, et plus vraisemblable deviendra la reconduction de la grande coalition qui n'est pas obligatoirement l'objectif poursuivi par les deux partis.
Pour qu'on comprenne bien le système de coalition, on est en train de dire que la CDU, le parti d'Angela Merkel, n'est pas assez fort, n'obtiendra pas assez de voix pour gouverner seule.
Tout à fait. Ça n'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire d'après-guerre de l'Allemagne, en 1957, que les chrétiens-démocrates aient eu, à eux seuls, la majorité absolue. Et l'expérience leur a montré que le fait d'avoir une majorité absolue restait souvent inconfortable. Mmh. Et le système électoral, de toute façon, qui est un mode de scrutin quasiment purement à la proportionnelle, avec des adaptations... conduit de toute façon à la presque nécessité de constituer des coalitions, si bien que malgré le pouvoir dont dispose le chancelier qui décide de la politique du gouvernement, il est aussi un animateur d'une coalition qui doit tenir compte des intérêts de son parti, des intérêts du ou des partenaires avec qui il fait une coalition.
Alors, quel partenaire on pourrait imaginer Angela Merkel dimanche soir ou dans les jours qui vont suivre?
Alors, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'options qui sont possibles. Si jamais les libéraux sont suffisamment bien représentés et qu'avec les chrétiens-démocrates, il est possible de former une coalition qui ait vraiment la majorité des sièges, même avec une majorité de voix qui serait peut-être aux alentours de 48%, à ce moment-là, je crois qu'il y aura presque une obligation morale et idéologique pour les chrétiens-démocrates de s'allier avec les libéraux, même si ça n'est peut-être pas le meilleur choix pour eux.
C'est-à-dire, quelle est la différence politique? Est-ce que le parti d'Angela Merkel et les libéraux sont plutôt sur les mêmes lignes?
Alors, ils sont sur une même ligne idéologique libérale, mais sur certains points, les libéraux pourraient être finalement un partenaire difficile pour les chrétiens-démocrates, en particulier sur la question de l'Europe. Angela Merkel est une, comment dire, pragmatique, pas une doctrinaire, sauf peut-être quand la défense de l'euro lui impose et que la Bundesbank, la Banque fédérale allemande, tire les ficelles un peu dans son dos. Mais elle est plutôt quelqu'un qui, même si elle est parfois un peu lente à prendre une décision, a le sens des compromis. Et avec un partenaire libéral qui dit ne rien vouloir entendre en matière de mutualisation des dettes et qui veut absolument un respect au point près des engagements pris, par exemple pour ce qui est des engagements en matière de dette publique, elle aura un partenaire certainement intransigeant que ne seraient pas les chrétiens-démocrates.
Certains observateurs imaginent même une coalition à trois, et on évoque les Verts. Comment on peut imaginer les libéraux, les Verts, les chrétiens démocrates travailler ensemble alors qu'on a l'impression qu'ils sont plutôt aux deux pôles de l'échiquier ?
J'aime bien votre question parce qu'elle émet déjà en quelque sorte un doute sur la faisabilité ou la fiabilité politique d'une telle coalition qu'on appelle coalition aux couleurs de la Jamaïque,
oui.
À cause du noir pour les chrétiens démocrates,
du
jaune du drapeau de la Jamaïque et le vert des Verts. Si on avait une coalition comme celle-là au Bundestag, ce serait la première fois qu'on aurait une coalition à trois. Certains même disent à quatre, puisque on pourra peut-être parler des différences qu'il y a entre les chrétiens démocrates CDU et les chrétiens sociaux bavarois CSU, qui sont deux partis indépendants, mais qui forment ensemble un même et seul groupe parlementaire au Bundestag. Mmh. Ils pourraient très bien distendre leur lien. Alors, ce qui fait qu'on peut avoir des hésitations, les libéraux s'en sont pris très vigoureusement aux Verts pendant la campagne électorale, et les Verts également aux libéraux, si bien qu'on les voit mal s'entendre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en Allemagne, quand il y a l'obligation de s'entendre pour le bien de la nation, on arrive toujours quand même à s'entendre.
On comprend en tout cas que cette coalition qui va gouverner aux côtés d'Angela Merkel, c'est bien ce qu'il va falloir suivre dimanche soir.
Nous nous sommes fixé l'objectif d'atteindre le plein emploi d'ici 2025, c'est-à-dire un taux de chômage de moins de 3%. Et je crois que l'on peut y arriver.
La voix d'Angela Merkel et ses promesses pour l'avenir, la chancelière allemande qui met avant tout en avant son bilan économique.
Oui, mais là, elle aurait tort de ne pas le faire, puisque le bilan économique et social même de l'Allemagne est plutôt globalement satisfaisant. La croissance est là, les rentrées fiscales sont satisfaisantes, plus que satisfaisantes, il y a de l'argent à redistribuer. Et puis, les excédents commerciaux, qui, à mon avis, posent problème dans le sens d'un équilibre macroéconomique global, mais font la force aujourd'hui des exportations allemandes. Le chômage est au plus bas depuis des années, et même s'il est plus élevé encore aujourd'hui à l'Est qu'à l'Ouest, il a, proportionnellement parlant, plus fortement baissé à l'Est, même s'il est aujourd'hui de 1,5 point, plutôt, on devrait dire que le chômage à l'Est est le chômage à l'Ouest multiplié par 1,5. Bon, c'est peut-être un peu compliqué sur le plan mathématique.
On comprend en tout cas
qu'il a beaucoup plus vite baissé ces derniers temps qu'à l'Ouest. Mais à l'Ouest, le chômage était déjà de toute façon bas.
Est-ce que c'est cette situation économique qui explique la longévité d'Angela Merkel? Et on parle déjà d'un quatrième mandat, les élections n'ont pas eu lieu. Je précise juste que 80% des Allemands jugent leur situation économique bonne. Alors est-ce que le succès d'Angela Merkel se joue là?
Je pense que c'est un élément tout à fait favorable et important. Je pense qu'il y en a d'autres. C'est aussi le fait que le système institutionnel allemand favorise de toute façon le chancelier sortant et lui accorde une autorité que aucun autre personnage politique, on le verra à propos de Martin Schulz, ne peut avoir, ne peut lui contester. C'est aussi sa propre personnalité. C'est-à-dire, d'un côté, elle apparaît terne, mais d'un autre côté, elle a une capacité assez étonnante de reprendre à son compte les idées des autres et de les appliquer. En siphonnant ainsi les idées des autres, elle siphonne en même temps leur électorat. On l'a vu sur la question du nucléaire, on l'a vu sur la question également sociale, puisque même si c'est sous la pression des sociaux-démocrates, elle a accepté, alors que les économistes allemands sont plutôt opposés à l'idée d'un SMIG, elle a réussi finalement à faire passer un SMIG qui n'est certainement pas aussi généreux qu'en France et qui connaît quelques limites. Elle a réussi aussi à faire passer contre ses convictions le mariage pour tous. Là, c'est encore une histoire sur laquelle on pourrait revenir, mais on voit bien qu'elle a cette capacité que je qualifierais finalement de syncrétisme politique. Et cela la rend consensuelle, puisque finalement, elle donne quelque part raison un peu à tout le monde. Et puis, elle apparaît, je crois, dans une période difficile, à la fois de lutte contre le terrorisme et surtout confrontée à la politique migratoire, aux questions de migration. Elle apparaît un peu comme une valeur refuge, même si elle a été vigoureusement contestée pour sa politique migratoire.
On va y revenir, évidemment.
On peut en parler tout à l'heure.
Elle incarne vraiment une stabilité. Est-ce que les Allemands ont envie de cette stabilité?
Ben, je crois que actuellement, les Allemands n'ont pas envie de faire des expériences. Et ça rappelle un peu le slogan du chancelier Adenauer des années 50. Keine Experimente, surtout conservons l'acquis, travaillons sur l'acquis, mais surtout ne nous engageons pas sur des voies qui seraient peut-être périlleuses.
Alors, il y a quelques mois encore, la CDU d'Angela Merkel avait un concurrent qu'on disait sérieux, Martin Schulz du SPD.
L'Allemagne se porte bien, c'est vrai, mais c'est un seul côté de la médaille. Quand on dit que l'Allemagne va bien, ça ne veut pas dire que les choses vont bien pour tous les Allemands. Moi, je veux que le plus de gens possible aillent bien dans ce pays. C'est pourquoi nous devons devenir, à bien des égards, encore meilleurs. Prenez la politique d'éducation, prenez l'investissement dans la recherche et le développement, les retards pris dans le domaine du digital. Sur tous ces points, nous sommes loin derrière de nombreux pays dans le monde, et notamment en Europe.
Martin Schulz, qui était vu il y a quelques mois encore comme l'homme nouveau, ex-président du Parlement européen, un peu aux affaires en Allemagne. Et puis aujourd'hui, il ne recueille que 20% d'intentions de vote. Comment expliquer sa situation? Il était vraiment apparu à un moment comme un concurrent potentiel pour Angela Merkel?
Il est effectivement apparu comme un concurrent potentiel, puisqu'il y a eu un moment où des sondages donnaient les deux partis, chrétien-démocrate d'une part, sociodémocrate d'autre part, à peu près au même niveau, voire même, selon certains sondages, avec un petit avantage pour les sociodémocrates. Mais ça n'a duré que l'espace de quelques semaines, ça a été finalement un feu de paille, pourrait-on dire. Et on peut se demander pourquoi Martin Schulz a eu un tel succès qu'il n'a pas su, en quelque sorte, exploiter, qu'il n'a pas transformé son essai. Alors je crois que le succès qu'il a rencontré, c'est parce que le SPD allait à la fin de l'année 2016, mal. Le candidat son président qui aurait dû être le candidat finalement à la chancellerie ne convainquait pas, Sigmar Gabriel. Et en abandonnant finalement la présidence du parti à Martin Schulz et en même temps lui-même en abandonnant ses fonctions de ministre de l'économie pour devenir ensuite ministre des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel a donné la possibilité à Martin Schulz d'apparaître comme une personnalité nouvelle. Et la nouveauté a joué sans aucun doute un rôle considérable dans le succès à la fois médiatique, mais aussi auprès des militants du SPD. Et le succès auprès des militants du SPD, c'est que ça les sortait d'une frustration. Ils avaient le sentiment que finalement le SPD était condamné à ne jamais dépasser avec Sigmar Gabriel les 20%. Avec Martin Schulz, ils ont le sentiment tout d'un coup que il est possible de damer le pion à la première dame du pays.
Et finalement, il semble que ça ne va pas être possible. Il faut quand même rappeler que le SPD a souvent été partenaire au sein de la coalition. C'est difficile pour Martin Schulz alors de se démarquer. On l'a bien vu pendant un débat télévisé il y a 3 semaines, je crois. Il a eu du mal à se démarquer aussi d'Angela Merkel. Ils sont trop liés, leurs politiques sont trop liées. On avait du mal à lire justement le programme de Martin Schulz.
Mais je pense que Martin Schulz a été victime aussi de ses effets d'annonce. Parce qu'à la veille du débat, en gros, il a dit « je vais lui montrer de quoi je suis capable ». Et puis, il est apparu comme finalement un gentil garçon. Et on a parlé tout de suite, non pas d'un duel télévisé, mais d'un duo.
Et alors, on a même parlé, dans la famille, en tout cas politique, d'Angela Merkel, d'un entretien d'embauche pour le poste de futur ministre des Affaires étrangères.
Alors, ça n'est pas exclu, mais je crois qu'il faut quand même dire encore 2-3 mots. Pourquoi cette chute finalement de Martin Schulz? Je pense qu'il a commis un certain nombre de fautes sur le plan politique. Le SPD a perdu les élections en Sarre, alors qu'il était au pouvoir avec les Verts, et Martin Schulz s'était engagé sur l'idée que en Sarre, il serait possible finalement de mettre en place une coalition, et là on retrouve les questions de coalition, SPD, Verts et la gauche, donc ce qu'on appelle une coalition rouge-rouge-verte. Et ça n'a pas du tout plu aux électeurs sarrois. Et ça a été, et Martin Schulz en a été rendu responsable de cet échec. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais après, au Schleswig-Holstein, pour des raisons qui n'engagent pas, je pense, beaucoup Martin Schulz, le SPD perd les élections et on a, au terme de ces élections régionales, une coalition non plus sociodémocrate plus vert, mais chrétien-démocrate plus vert. c'est un camouflet pour le SPD. Et surtout en Rhénanie du Nord-Westphalie, le bastion même du SPD, où Martin Schulz a été peu présent, le SPD perd les élections.
On a donc parlé de la potentielle future coalition, de la place délicate donc du SPD sur l'échiquier. Autre enjeu de ce scrutin de dimanche, c'est le score des nationalistes de l'AfD.
La sécurité intérieure est en recul en Allemagne et c'est une conséquence directe de la politique d'ouverture des frontières. Les espaces publics sont de plus en plus dangereux, notamment pour les femmes, et la CDU, responsable de cet état de fait, ose mettre en avant la sécurité dans sa campagne. L'Alternative pour l'Allemagne est le seul parti qui a des réponses à ces questions.
On vient d'entendre Alice Weidel, l'une des figures de l'AfD. Jérôme Vaillant, est-ce que vous pouvez nous résumer déjà la ligne politique du parti nationaliste AfD ?
Alors l'AfD est un parti qui s'est fondé d'abord sur le rejet de l'Europe. C'est un parti eurosceptique, plutôt d'ailleurs fondé par des intellectuels ou des représentants, même de certains patrons allemands qui rêvent d'un abandon de l'euro. Et puis, ça n'a pas vraiment marché, et l'AfD était en perte de vitesse ces derniers temps, et c'est la crise migratoire qui véritablement a donné au parti l'occasion de se rappeler au bon souvenir des Allemands, en particulier des Allemands de l'Est.
Qu'on résume, c'est l'arrivée donc d'un million de réfugiés sur le territoire allemand. L'AfD a vraiment surfé justement sur ce fait d'actualité. Ça l'a porté il y a quelques mois encore, et il se plaçait très bien dans les sondages.
Il n'y a pas de doute, l'AfD a surfé sur cette vague de xénophobie venant surtout d'Allemagne de l'Est, alors que Angela Merkel avait plutôt lancé cette politique. Et il faut bien voir qu'il y a les deux éléments de la culture d'accueil, Willkommenskultur, comme on l'appelle en allemand, et que c'est d'abord ça qui a été, prégnant en Allemagne, c'est de voir ces Allemands dire aux réfugiés, vous êtes les bienvenus chez nous, on vous accueille, on vous aide. Mmh. Ça n'a pas plu à tous les Allemands. Mmh. Ça n'a pas plu en particulier à ceux qui ne sont même pas confrontés à la présence de nombreux réfugiés comme les Allemands de l'Est.
Comment on explique alors aujourd'hui, il pourrait faire entre 9 et 11% de voix, c'est quand même moins que ce qu'on avait imaginé il y a quelques mois, comment on explique cette baisse ?
Alors la baisse est liée au fait que la crise migratoire a quand même été désamorcée par la politique menée par la chancelière, accord avec la Turquie, couper un certain nombre de voies de passage. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que la chancelière dit simplement aux réfugiés potentiels « Venez chez nous, on vous accueillera ». La chancelière a toujours été d'avis que l'Allemagne ne pouvait pas accueillir tout le monde et, en quelque sorte, s'occuper de toutes les souffrances du monde.
Et l'immigration a été un sujet peu abordé pendant cette campagne. C'est pas vraiment la priorité de l'électeur allemand.
Je crois qu'on a quand même beaucoup plus parlé, qu'on ne veut bien le penser et le dire, de la crise migratoire. Mmh. D'abord parce que la remontée précisément de l'AfD sur cette question-là a remis ces derniers jours la crise migratoire au sein du débat. Et je corrigerai un peu l'idée que la campagne a été terne. Elle a été terne, oui, mais après le débat télévisé Merkel-Schulz, on a eu toute une série d'autres débats dont on n'a pas beaucoup parlé en France, organisés par les différentes chaînes de télévision avec les petits partis. Et là, ça a donné des débats tout à fait animés et surtout une série d'entretiens dans la presse avec les représentants de ces partis qui étaient tout à fait passionnants.
Ce qu'on n'a pas dit, c'est que si l'AfD donc obtenait entre 9 et 11%, ce serait le premier parti nationaliste à entrer au Bundestag depuis la Seconde Guerre mondiale. Et vous l'évoquiez dès le début de l'émission, ça pourrait jouer aussi sur la coalition d'Angela Merkel.
Alors ça jouera certainement sur la coalition. Plus le score de l'AfD sera élevé, plus il sera vraisemblable que l'on aura à la fin une grande coalition.
Voilà ce qu'on va surveiller dimanche et grâce à vous. Merci Jérôme Vaillant, professeur émérite de civilisation allemande à l'université de Lille, rédacteur en chef de la revue Allemagne d'aujourd'hui. Merci à Arthur Tossou qui m'a aidé à préparer cette émission, Claude Battista qui était à la réalisation. C'était Décryptage, émission à retrouver sur RFI.fr et sur les pages Facebook et Twitter de l'émission. Très bonne soirée.